Voilà, donc ce matin, on va continuer notre voyage à travers l'histoire de Néhémie. On a vu que Néhémie était un homme de Dieu, appelé par Dieu, avec un but précis, celui de retourner, prendre soin de son peuple, prendre soin de sa ville. Et ce matin, je voulais vous parler de le service véritable dans la crainte de Dieu, dans Néhémie 5. Avant de prendre le texte, monsieur, on est beaucoup dans un monde d'apparence. On est dans un monde où l'apparence a plus de valeur que ce que nous sommes vraiment. Parfois, on est surpris de découvrir telle ou telle personne telle qu'elle est vraiment, parce que d'apparence, elle présente bien. Et dans un monde qui va tellement vite, où on va starifier quelqu'un par apparence, quand on découvre que la personne qu'on idolâtrait, qu'on aimait beaucoup, est finalement pas mieux que nous, on a des déceptions, on a des tristesses, on a des souffrances. Sauver les apparences, c'est tout ce qui peut compter, que ce soit dans le milieu professionnel, que ce soit dans le milieu, j'allais dire, religieux, malheureusement, et dans le milieu personnel. On veut sauver les meubles, montrer, regarder comme on est bien, regarder comme on vit bien, et finalement, au fond de nous-mêmes, on est triste. Et on peut avoir cette apparence pieuse, une bonne apparence bien pieuse, et qui est finalement qu'une apparence qui ne sauve pas. Parce que l'absence de crainte de Dieu nous amène à un service d'apparence, à un service de nous-mêmes. C'est plus nous qui servons Dieu. On se sert de Dieu pour servir. On met juste le nom. Et c'est nous-mêmes que nous servons. Et ce texte peut nous aider. Un vieux texte qui pourtant peut nous aider. Je vous propose donc d'ouvrir vos Bibles dans Néhémie 5. Je vais prendre le texte. Il s'éleva de la part du peuple, de la part des gens du peuple et de leurs femmes, de grandes plaintes contre leurs frères les Juifs. Les uns disaient, « Nous, nos fils et nos filles, nous sommes nombreux, qu'on nous donne du blé afin que nous mangions et que nous vivions. » D'autres disaient, « Nous engageons nos champs, nos vignes et nos maisons pour avoir du blé pendant la famine. » D'autres disaient, « Nous avons emprunté de l'argent sur nos champs et nos vignes pour le tribut du roi. » Et pourtant, notre chair est comme la chair de nos frères. Nos enfants sont comme leurs enfants. Et voici, nous soumettons à la servitude nos fils et nos filles, et plusieurs de nos filles sont déjà réduites. Nous sommes sans force, et nos champs et nos vignes sont à d'autres. Je fus très irrité lorsque j'entendis leurs plaintes et ces paroles-là. Je résolus de faire des réprimandes aux grands et aux magistrats. Je leur dis, « Quoi ? Vous prêtez à l'intérêt à vos frères ?» Et je rassemblai autour d'eux une grande foule et je leur dis, « Nous avons racheté, selon notre pouvoir, nos frères les Juifs vendus aux nations. Et vous, vous vendriez vous-même vos frères, et c'est à nous qu'ils seraient vendus. » Ils se turent, ne trouvant rien à répondre. Puis je dis, « Ce que vous faites n'est pas bien. Vous devriez marcher dans la crainte de notre Dieu pour ne pas être insultés par les nations nos ennemis. Moi aussi, et mes frères, et mes serviteurs, nous avons prêté de l'argent et du blé. Abandonnons ce qu'ils nous doivent. Rendez-leur donc leurs champs, leurs vignes, leurs oliviers, leurs maisons et le centième de l'argent, du blé, du moût, de l'huile que vous avez exigé d'eux comme intérêt. » Ils répondirent, « Nous rendrons et nous leur demanderons rien. Nous ferons ce que tu as dit. » Alors j'appelai les sacrificateurs devant lesquels je leur fis jurer et tenir parole. Et je secouai mon manteau en disant, « Que Dieu secoue de la même manière hors de sa maison et de ses biens tout homme qui n'aura point tenu parole, et qu'ainsi cet homme soit secoué et laissé à vide. » Toute l'assemblée dit « Amen ». On célébra l'Éternel et le peuple tint parole. Dès le jour où le roi m'établit leur gouverneur dans le pays de Juda, depuis la 20e année jusqu'à la 32e année du roi Artaxerxès, pendant 12 ans, ni moi ni mes frères n'avons vécu du revenu du gouverneur. Avant moi, les premiers gouverneurs accablaient le peuple et recevaient de lui du pain, du vin, outre les 40 cycles d'argent. Leurs serviteurs même opprimaient le peuple. Je n'ai point agi de la sorte, par crainte de Dieu. Bien plus, j'ai travaillé à la réparation de cette muraille et nous avons acheté aucun champ. Et mes serviteurs tous ensemble étaient à l'ouvrage. J'avais à ma table 150 hommes, juifs et magistrats, outre ceux qui venaient à nous des nations alentours. On m'apprêtait chaque jour un bœuf, 6 moutons choisis, des oiseaux, et tous les 10 jours on préparait en abondance tout le vin nécessaire. Malgré cela, Je n'ai point réclamé les revenus du gouverneur parce que les travaux étaient à la charge de ce peuple. Souviens-toi favorablement de moi, ô mon Dieu, à cause de tout ce que j'ai fait pour le peuple. » Jusque-là, on va prier. Merci Seigneur pour ta parole. Merci parce que ta parole n'a pas été écrite pour rien. Elle a encore à nous instruire, elle a encore à nous enseigner, à nous former un cœur pour marcher selon la foi, marcher selon Jésus-Christ, et non pas selon ce que nous pensons. Merci parce qu'aujourd'hui, tu veux ouvrir nos cœurs, ouvrir nos pensées et nous interpeller par ce que tu as à nous dire, Seigneur. Amen. Donc, nous venons de lire Néhémie 5. Je remets le contexte rapidement. On a vu au cours des semaines, Néhémie était un homme de foi, un homme de Dieu, un homme qui a été touché à Suse, on l'avait rappelé, à 1000 kilomètres de Jérusalem, lorsque des personnes sont venues lui dire « Voilà l'état de ton pays, voilà l'état de ta ville. » Il avait jeûné, il avait prié, et on avait vu tout ce que ça avait amené, un homme d'action, mais un homme de prière. Et devant le roi, il avait osé lui dire, lui qui avait une place haut placée, il était près du roi, il avait l'oreille du roi. Et en tout cas, il a osé s'adresser au roi, qui l'a libéré de ses fonctions pour aller reconstruire cette muraille. On avait vu la semaine dernière que lors de la reconstruction de cette muraille, il y avait eu des attaques, des menaces de l'extérieur, des insultes, des découragements. Mais tout cela, c'était à l'extérieur. Et Néhémie, avec le peuple, ils avaient mis Dieu en avant, ils avaient surmonté ces menaces. Et là, on arrive juste après ces menaces extérieures où des personnes vont venir. Parce qu'on avait vu que Néhémie, qui pleurait, il priait dans Néhémie 1, versets 4 à 5. On a vu qu'il va s'asseoir, il va prier dans Néhémie 2. Je fus saisi d'une grande crainte et je répondis au roi que le roi vive éternellement. Comment n'aurais-je pas mauvais visage lorsque la ville où les sépulcres de mes pères est détruite et que les portes sont consumées par le feu? Et le roi me dit, que demandes-tu? Je priais le Dieu des cieux et je répondis. On avait vu que Néhémie il s'adresse à Dieu. Et dans Néhémie 4, on avait vu là, c'était tout le peuple. La foi de Néhémie, sa manière de vivre, tout le peuple, dans Néhémie 4, verset 9, nous priâmes notre Dieu. La première chose à faire, Néhémie se présente comme un homme de prière. Les menaces externes sont toujours présentes. On avait laissé le peuple avec l'épée et la truelle. Vous vous souvenez, la semaine dernière, pour ceux qui étaient présents, ils construisent une muraille, ce n'est pas leur métier. Il y a l'extérieur, derrière, il y a des gens qui veulent les détruire, qui se moquent d'eux, qui les méprisent. Et non seulement ils continuent à construire, mais ils ont aussi l'épée pour se défendre. Et c'est sur cette situation que des menaces internes arrivent. Et c'est ce qu'on commence maintenant. Néhémie 5 commence comme ça, on vient de le lire. « Il s'éleva de la part des gens du peuple et de leurs femmes de grandes plaintes contre leurs frères, les Juifs. » Voilà. On a une partie du peuple qui jusque-là, visiblement, s'était tue. Elle vient trouver Néhémie et elle porte plainte, comme on pourrait dire aujourd'hui, contre leurs conditions. Leurs enfants, leurs filles sont esclaves de leurs frères. Eux, ils n'ont plus rien. La vie est déjà dure, on avait vu, ils ne pouvaient plus rentrer chez eux, ils habitaient dans Jérusalem parce qu'il fallait la rebâtir. On avait même vu qu'ils ne quittaient même pas leurs vêtements, ils travaillaient longtemps, ils ne quittaient plus leurs vêtements de peur de se faire attaquer, ils étaient là. Ils supportent plein de choses, mais là, ils ne supportent plus, ils viennent trouver Néhémie, nos frères, nos propres frères, nous volent, nous prêtent avec intérêt, nous ont dépossédés. Et comme ils n'ont plus d'argent, ils sont obligés d'hypothéquer leur terre. Donc ils vont donner la terre à ceux qui doivent l'argent. Du coup, ils n'ont plus à manger. Comme ils n'ont plus à manger, ils sont obligés de donner leur fille. Et comme ils n'ont plus leur fille, eh ben, ils n'ont plus d'aide. Et puis c'est un cercle vicieux de la pauvreté. Certains s'enrichissent et certains s'appauvrissent. Alors qu'on est dans un temps sérieux, où on avait vu la semaine dernière où ils risquaient leur vie, et des personnes à l'intérieur du peuple profitent de cette situation, ne trouvent pas de problème à abuser de leurs frères. Et c'est dans ces conditions-là, ils n'en peuvent plus, ils vont trouver Néhémie. Et nous, qu'on va dire, c'est une crise interne, là. Ils sont au bord de la fracture. Ils ont dit, fais quelque chose, c'est un cri. Ils disent, hein, de grandes plaintes, de grandes lamentations. Néhémie, fais quelque chose. Et qu'on va dire, nous, ça ne nous arrive pas. Cela peut nous arriver parfois. Parfois d'autres profitent d'une situation. Peut-être que pas directement physiquement, mais on peut décourager. Parce que là, c'est un découragement. Ces gens-là sont au bout du rouleau, comme on pourrait dire. Ils n'en peuvent plus. Leur vie est déjà dure et leurs propres frères en rajoutent. Et parfois, si nous, on ne le fait pas de manière peut-être physique, on ne va pas piquer les filles des uns et des autres, mais on peut décourager quelqu'un qui est déjà très difficile dans sa vie et on vient rajouter un discours moralisateur sur notre bien-pensant. On vient rajouter quelque chose. On vient lui signaler notre désaccord avec ce qu'il fait. On vient lui dire que ce qu'il fait, ce n'est pas bien. Des fois, des frères et des sœurs sont dans des choses difficiles, des épreuves difficiles, mais qui sont dues comme ces gens qui reconstruisaient la muraille. C'était difficile. Ils avaient de l'adversité et pourtant, c'était le plan de Dieu. Et on vient abuser sur quelque chose. Un prédicateur, Ray Brooks, disait, il avait à cœur d'évangéliser les perdus. Et un jour, il avait quasiment plus d'essence. Il habitait en Amérique. Il n'avait plus d'essence. C'était un Canadien qui habitait en Amérique. Et il y avait une grosse tempête de neige. Il faisait froid, pas d'essence, rien du tout. Mais il lui restait un tout petit peu pour aller jusqu'à la rendez-vous d'évangélisation où il devait aller. Et son collègue chrétien qui habitait juste en face, quand il l'a vu sortir le soir, dans la nuit, avec le vent, la neige, aller à son 4x4 pour aller à un truc, il fait « Frère, pourquoi tu y vas? Il n'y a pas d'essence. Tu ne vas pas y aller, ça ne sert à rien, reste chez toi. » Et voilà, ce frère, c'est le genre de choses que nous on peut dire. Il y a des gens qui sont parfois appelés à faire des choses difficiles et on veut de les aider, de les soutenir dans la prière, comme on avait vu dans Néhémie 4 où ils étaient tous unis dans la prière. Nous, on vient et on sait mieux. Nous, on vient, on lui dit « reste ». Alors, ce n'est pas le même genre, mais c'est le même moyen de destruction qui amène à des crises, qui menacent l'unité et le plan de Dieu. C'est de la même manière, il y a un asservissement. Nos paroles découragent, comme leur manière de faire décourageait les frères. Et il y a aussi, malheureusement, des profiteurs, des gens qui s'érigent en frères, pour qui l'argent doit circuler dans leur poche. Malheureusement, certains d'entre vous connaissent de tristes histoires où de la mauvaise gestion frauduleuse a amené à une rupture dans une œuvre qui était odieuse de départ et que des jeunes se sont accaparés. Et ils l'ont détruit. Ils l'ont détruite. Et Dieu sera le seul juge, mais des personnes qui étaient là ont été découragées. Les familles se sont brisées. Et certains ont perdu à cœur la vision. Ils ont perdu leur maison, ils ont perdu beaucoup de choses parce qu'ils ont fait confiance à de mauvaises personnes parfois qui présentaient bien, qui avaient de bonnes apparences. Et au départ, ce n'est pas toujours une mauvaise idée. Ce n'est pas toujours forcément mal. Mais ça finit toujours par briser. Et on avait vu pourtant cette belle unité au chapitre 2, 3 et 4, elle se met en place. On en avait parlé lorsqu'ils travaillaient côte à côte. Et pourtant, en travaillant côte à côte, certains abusaient de leurs frères sans avoir de problème à travailler à côté. Et on avait vu la semaine dernière lors des attaques. Ah, il y a des menaces extérieures, on vient nous prévenir. On se défend, on est prêt à vous défendre. Mais en même temps, ça ne nous gêne pas de soutirer de l'intérêt, de soutirer de l'argent, de mettre les filles de mon collègue en esclavage. Et c'était une apparence, parce que le peuple avait oublié la crainte de Dieu, une partie du peuple avait oublié Dieu. Et le peuple vient trouver Néhémie, parce qu'il voit en Néhémie un homme de Dieu. Et le jugement de Néhémie, ce que j'ai appelé le jugement de Néhémie, c'est ce qui suit, c'est les versets 6 à 19, mais là on va déjà faire 6 à 11. C'est en trois parties, on va voir la plainte. Ce qu'on a vu, ils sont venus se plaindre. Et Néhémie, au verset 6 à 11, il va dire « Je fus très irrité lorsque j'entendis leurs plaintes et ces paroles-là. Je résolus de faire des réprimandes aux grands et aux magistrats. Je leur dis « Quoi ? Vous prêtez intérêt à vos frères ?» Et je rassemblai autour d'eux une grande foule et je leur dis « Nous avons racheté, nous, nos frères, selon notre pouvoir, les Juifs vendus aux nations. Et vous, vous vendriez vous-même vos frères et c'est à nous qu'ils seraient vendus ?» Ils se turent, ne trouvant rien à répondre. Puis je leur dis, ce que vous faites n'est pas bien, vous devriez marcher dans la crainte de notre Dieu pour ne pas être insultés par les nations, nos ennemis. Moi aussi et mes frères et mes serviteurs, nous leur avons prêté de l'argent et du blé, abandonnons ce qu'ils nous doivent. Rendez-leur donc aujourd'hui leurs champs, leurs vignes, leurs oliviers et leurs maisons, et le centième d'argent, du blé, du moût et de l'huile que vous avez exigé d'eux comme intérêt. » Ça, c'est la réponse de Néhémie directe. On voit qu'elle est sans attendre. Néhémie, il entend ça. Il fait venir tout le monde. Il fait arrêter le chantier. C'est grave, parce qu'il ne l'avait pas arrêté, alors qu'il y a des gens qui menacent de les attaquer depuis le début. Enfin, depuis le verset 4, le chapitre 4, on a vu, il y a des gens qui risquent d'attaquer. Alors, avec une épée et puis une truelle, ça va. Mais là, c'est une crise assez grave. Trop grave. Néhémie vient, il dit « Attends, on arrête tout, on fait venir tout le monde. » Et dans la... Il fait part de son irritation. J'étais très irrité. Et dans le terme d'origine, il y a même une notion de s'enflammer, de brûler à l'intérieur. Donc ça va plus loin que l'irritation. Il sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et là, il va condamner ouvertement ce qu'ils font. Il va condamner les magistrats et les grands. Et il va leur dire, ça n'a pas l'air ici, mais il va leur dire une grande insulte pour l'époque, parce qu'il va dire, vous êtes pire que les nations. C'est-à-dire que les Juifs, c'était une fierté d'être le peuple élu. Voilà, il y a quand même une certaine fierté. Ils sont pas au-dessus des autres, mais ils ont quand même la Torah, ils ont quand même la loi, ils ont quand même plein de choses. C'est pas les goyim, donc c'est pas les nations. Et là, il va carrément les insulter en disant « Vous faites pire. Vous faites pire. Vous faites pire. Vous êtes pire que les autres. Parce que vous le vendez, nous on les rachète. » Les Juifs étaient dispersés dans tout le monde, connus à l'époque. Et entre Juifs, ils se rachetaient s'ils avaient les moyens, et eux, ils les vendent à leurs propres frères. Et il dit, vous n'avez pas la crainte de Dieu, vous avez oublié, vous vous êtes comporté pire que les nations, parce que vous avez oublié qui est votre Dieu. Les Juifs partout ailleurs rachetaient les plus pauvres de leur condition d'esclaves, parce qu'il était interdit de vendre, et d'exiger en tout cas de prêter avec intérêt. C'est la colère et la tristesse de Néhémie, et la tristesse elle n'est pas contre eux, parce que qu'est-ce qu'il va le dire ? Marcher dans la crainte de notre Dieu, ça c'est au verset 9, pour ne pas être insultés par les nations, nos ennemis, leur manière de faire porter atteinte à la grandeur de Dieu. Ce Dieu d'Israël, le Dieu des Juifs, et leur manière de faire permettait aux ennemis de les insulter, et à travers ça d'insulter Dieu. Et ils leur disent que c'est pas bien, ce que vous faites n'est pas bien. Néhémie, il n'attend pas. Néhémie, il a vu... Il commence à comprendre que là, il y a une apparence de piété. Ces gens-là se comportaient bien. Eux aussi avaient sûrement l'épée et la truelle. Eux aussi avaient prié en même temps. D'un commun accord, ils étaient décidés de remonter la muraille jusqu'à mi-hauteur. Eux aussi travaillaient côte à côte le matin. Mais en même temps, ils asservissaient leurs frères esclaves sans scrupule. Et là, il leur dit, vous ne pensez qu'à vous enrichir. Au fond de votre cœur, il n'y a pas la crainte de Dieu. Ces riches personnes du peuple agissaient ainsi avant même l'arrivée de Néhémie, sûrement. Et c'est l'arrivée de Néhémie qui va provoquer encore plus leur siècle de pauvreté, parce que Néhémie va rebâtir. Il va commencer à avoir une vision pour rebâtir Jérusalem. Et donc, on va voir ces gens-là, quand ils vont voir Néhémie arriver, ils vont continuer à agir de la même manière. Il va y avoir des déclics, mais leur cœur va rester insensible à ce qu'ils font subir à leurs frères. On a cru voir une réelle unité, et finalement, elle n'était qu'apparence pour une certaine partie. C'est pourquoi les plus pauvres d'entre eux étaient venus trouver Néhémie. Oh, ça ne peut plus durer. Ça ne peut plus durer. Et parfois, ça ne résonne pas dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos assemblées. A-t-on toujours Christ au centre quand nous faisons route ensemble, ou avons-nous quelques profits à faire pour notre gloire personnelle parfois, ou parfois pour être bien vu? Vous avez vu, j'ai fait ça. Les hommes et des femmes bien engagés pour Dieu dans l'assemblée, à qui on donnerait, pardonnez-moi l'expression, le bon Dieu sans confession, se révèlent finalement des chrétiens d'apparence, des hommes et des femmes qui vont s'abuser eux-mêmes et qui vont justifier leurs actions d'une manière ou d'une autre. Des gens qui vont ne pas avoir la vraie crainte de Dieu, la sainte crainte de Dieu dans leur cœur, et laisser Christ les mener là où il veut. Mais qui vont faire des choses pour les faire. Et c'est le genre de ministère qui peut détruire, qui peut venir briser, qui peut venir menacer l'édifice de Dieu qu'était l'Église. Et ici, l'édifice de Dieu, c'était la muraille, c'était la vision qu'avait Néhémie. Alors parfois, il faut oser trouver les responsables, ou le responsable, si on peut le trouver, dénoncer les abus, c'est ce qu'a fait le peuple. Ce qu'a fait le peuple, ils ont dit, là, on en a marre, on ne peut plus. Il faut que Néhémie agisse, ils sont venus le trouver. Mais en même temps, il faut qu'il agisse. Voilà, il y a la part des deux. C'est ainsi, c'est ça, être un berger, un pasteur, un responsable. C'est aussi discipliner, comme Néhémie l'a fait. Parce que ça ne fait pas plaisir. Néhémie, je ne pense pas qu'il y prenait plaisir. Mais c'est nécessaire. Parce que c'était nécessaire pour lui d'agir en tant qu'homme de Dieu, on l'a vu. Hein. L'homme de Dieu, dans la crainte de Dieu, lui, il priait avant d'agir. Même si c'était des courtes prières, il va toujours me remettre Dieu en avant. Et là, Néhémie se doit de dénoncer pour qu'il change immédiatement. Il ne dit pas demain, vous ferez. Il fait maintenant. Maintenant, vous allez changer de comportement. Néhémie ne va pas dire aux autres, c'est pas grave. Et les plus pauvres, hein, on reconstruit la muraille, je m'occupe de vous après. Ah, parce que c'est ça le plus important. Vous ne vous rendez pas compte, là, il y a tout le monde qui est contre nous. Hein, c'est bon. Vous étiez comme ça depuis le début, voilà, hein, calmez le jeu. Alors, je vais pas me battre avec les plus riches, avec les plus grands, voilà, si jamais ils quittent le chantier. Non, non, Néhémie, il vient, il fait ce qu'il faut. Certaines situations, parfois, demandent d'être résolues rapidement. Alors, pas toutes, hein. Pas dire si quelqu'un vient se plaindre tout de suite, on va pas tout de suite... Mais il y a des situations critiques où là, parfois, il faut agir. Parce que c'est aussi pour la gloire de Dieu. Comme Néhémie, pour un bon responsable, il faut agir justement et bien, par la grâce de Dieu, à une situation critique qui va empêcher la fracture de l'unité, si possible. Et Néhémie, il a ça aussi. Il se dit, il faut que le peuple, il s'unisse. Mais vraiment, il était uni d'apparence, il faut qu'il s'unisse de cœur. Et là, on a la deuxième partie du verset 12-13, c'est la réponse des riches. Ils répondirent, nous les rendrons et nous ne demanderons rien. Nous ferons ce que tu as dit. J'appelais les sacrificateurs, là c'est Néhémie qui reprend la parole, devant lesquels je les fis jurer de tenir parole et je secouais mon manteau en disant, que Dieu secoue de la même manière hors de sa maison et de ses biens tout homme qui n'aura point tenu parole. Et c'est qu'ainsi cet homme soit secoué et laissé à vide. Toute l'assemblée dit, Amen, et on célébra l'Éternel, et le peuple tint parole. Donc la parole de Dieu, c'est vrai, elle ne donne pas l'intonation de la réponse. Elle donne la réponse. Alors comment ils ont répondu? Soit ils étaient, ouais, t'as raison Néhémie, on a abusé, on va tout faire, ou ouais, ok, on n'a pas le choix, là, on est pris... Ouais, on ne sait pas. On sait juste que Néhémie, il ne se contente pas de ça, il fait venir les prêtres. Donc à l'époque, c'est un peu comme les notaires, sauf que c'est Dieu qui signe. Donc il leur fait promettre devant Dieu que si vous agissez pas comme ça, vous serez exclu du peuple. Parce qu'il va secouer la poussière. On retrouve ça aussi dans le Nouveau Testament. C'est quelque chose qui se faisait en disant, voilà, si vous agissez pas comme vous l'avez dit, c'est le sermon que vous avez fait à Dieu. Donc vous serez secoué aussi et vous serez exclu. Donc il connaît aussi hein, la nature du cœur. Il dit, c'est bien, vous l'avez dit, mais maintenant, on va le montrer devant l'Éternel. Et il leur fit jurer et tout le monde dit Amen. Donc là, on a quand même une espèce de joie parce qu'on a Amen et on célébra l'Éternel. Donc on a quand même une célébration de Dieu qui est au centre finalement de... Il est l'arbitre, il est le juge, il est le témoin de ce qui s'est passé. Parce que Néhémie sait que les hommes ne sont ce qu'ils sont, mais devant Dieu, devant la loi, devant l'Éternel, ils veulent leur réapprendre la crainte de l'Éternel et ils font s'y conformer. Pas seulement en parole, mais aussi dans leur cœur. Car Néhémie, il ne se présente pas comme juge. Il va dire c'est Dieu lui-même, comme à chaque fois. On l'a vu depuis Néhémie 1. Lui, il fait les choses, mais c'est toujours Dieu qui est dépositaire. C'est toujours Dieu qui choisit, c'est toujours Dieu qui organise. C'est toujours Dieu qui est le centre de ce que lui va faire. On lui a présenté une affaire, il aurait pu dire je vais la régler comme moi je pense. Non, non, il a dit maintenant, on va faire venir Dieu, parce que c'est toujours Dieu qui est le centre. Et du coup, c'est ce qu'il va dire. Ce n'est plus son problème. Comme pour les insultes, comme pour les menaces, comme pour le découragement, à chaque fois, Néhémie remet ça à Dieu. C'est trop lourd pour lui. Il dit, maintenant, c'est entre les mains de Dieu. Vous avez juré, comportez-vous de la manière dont vous l'avez fait, sinon Dieu vous jugera. Et c'est le problème de Dieu maintenant, aider grands qui avaient parié. Là encore, renoncer à nos manières mauvaises envers nos frères et sœurs nous engage envers Christ, qui est le chef de l'Église, cette Église locale. Alors, je l'ai peut-être déjà dit à certains, mais c'est vrai que l'église locale, c'est Christ qui l'a bâti. Il a bâti l'église avec un grand E, mais il a bâti toutes les églises locales. Il a donné sa vie pour elles. Et Francis Chan, pour certains qui le connaissent, qui a écrit un livre qui s'appelle « Lettre à l'église », il fait ce parallèle entre chaque division, chaque critique de l'église gratuite, chaque abus qu'on a les uns envers les autres. C'est comme lors de la dédicace du temple de Salomon, on serait venu avec notre marteau tapé sur le temple qui venait d'être bâti. Alors, je n'ose pas imaginer comment on aurait fini, si on le faisait vraiment, parce qu'à l'époque du temple de Salomon, si vous approchez avec un marteau, je ne sais pas si vous faisiez 2 mètres, parce que c'était un temple tellement beau, tellement grand, avec la présence de Dieu qui vient, et tout le monde s'enfuit, on ne peut plus y rester. Et chaque critique, c'est des coups de marteau sur ce qui est plus grand que le temple, l'Église. C'est ça qu'il faut le savoir, hein, l'Église, c'est plus grand. Jésus dira ici, il y a plus que Salomon. Donc on a quelque chose de plus grand, de plus merveilleux encore que ce temple. Et nous, on passe parfois notre temps à l'attaquer avec nos petits marteaux. Alors c'est sûr, si c'est qu'un coup de marteau de temps en temps, mais si tout le monde le fait, vous voyez que l'édifice... Alors qu'à chaque fois, à chaque critique, finalement, on dit au Seigneur, tu ne sais pas faire, parce que directement le chef de l'Église, c'est Christ. Comme là, Néhémie l'a dit, ce que vous avez fait, ce n'est pas contre moi. C'est Dieu que vous avez offensé. Libre à vous de continuer. Mais voilà, on se remet à chaque fois devant la crainte de Dieu. Qu'est-ce qui j'offense finalement? Et quand nous sommes en Christ, sa volonté nous amène à une réelle obéissance en acte qui vienne du Saint-Esprit. Et ne sont pas dans notre nature rebelle. Le Saint-Esprit ne vrai pas dans les cœurs, c'est vrai à l'époque. Mais les plus riches ont sûrement été saisis par les paroles de Néhémie. Ils en ont pris conscience qu'ils faisaient mal, parce que leur loi leur disait déjà. Lorsque les prêtres étaient là, ils ont compris le sérieux de l'affaire. Oh là, là on est devant Dieu. C'est-à-dire qu'à l'époque, ça se faisait, c'était pas inconnu pour eux. Donc ils ont vu, ils n'ont peut-être pas compris tout de suite, mais ils ont vu que c'était mal et ils ont décidé de changer de comportement. Ils se repentent et ils commencent à comprendre qu'offenser Dieu, c'est grave. Et que par eux, les ennemis offensaient Dieu. Donc comme je le disais, pour nous, plus de temple, plus de sacrificateur, mais Christ. Plus grand et plus merveilleux encore, face à notre péché devant sa croix, comment pouvons-nous tenir? Nous devons abandonner notre vie dans les mains du plus grand meneur et du plus grand juge. On peut venir, au lieu de venir à Néhémie, on peut venir à Dieu, au travers Jésus-Christ. Et alors, c'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. Et cela va faire toute la différence. Mais pour cela, pourquoi Néhémie a un tel impact dans ce qu'il va dire? Néhémie, il a parlé au peuple. Il a ramené tout le monde. Et de la manière dont il a parlé, Dieu était avec lui. Mais il y a eu un réel impact en Néhémie. Parce qu'il y a une phrase qui est très importante. Quand il va dire, il va les faire rappeler, puis ils vont dire, ils n'avaient plus rien à redire. Ils ne trouvaient rien à redire. Parce que ils ne pouvaient pas dire autre chose. Ils se turent, ne trouvant rien à répondre. Verset 9. Dieu, qu'on a vu plus haut. Parce que Néhémie, c'est l'exemple. Je finirai par là. C'est au verset 14 à 19. Néhémie, non seulement c'est un meneur, non seulement c'est un homme de Dieu, mais il va avoir une conduite exemplaire. Il va se comporter en modèle. Il le dit lui-même, hein, dès le jour où le roi m'établit gouverneur du pays, il n'a rien demandé. Il n'a rien demandé. Il n'a pas usé de sa position de gouverneur. Il n'a pas usé de son autorité. Il n'a pas réclamé ce qui lui était dû. Et bien plus, il ne s'est pas cloîtré dans une belle maison en disant, voilà, allez faire, moi je reste là. Non, tout le monde, tous ceux qui sont venus avec lui, étaient la truelle à la main et l'épée de l'autre. Et il a nourri tous les gens qui étaient là sans jamais rien demander. Il n'a acheté ni champ, ni vigne. Tout a été fait sur l'argent qu'il avait et tout ce qu'il avait déjà amené, toutes les vivres qu'il faisait amener de lui qui lui appartenait. On va dire qu'il avait une bonne place, il avait peut-être de l'argent, mais il l'a fait. C'est pourquoi, quand il confond ses ennemis, enfin ceux qui se comportent en ennemis du peuple, ils n'ont rien à dire. Ils ne trouvaient rien à dire, donc ils se sont tus. On se tait quand on trouve rien à dire. Et ça, c'est la dernière partie qui est importante parce que c'est sa vie de modèle. Elle donne envie, sa vie. Néhémie était un meneur valable car sa vie était en accord, était en cohérence entre ce qu'il dit et ce qu'il fait. Nous l'avons déjà vu au cours de ce livre. Hein. C'est un homme de Dieu, il va placer sa confiance, mais à chaque fois, tout le temps. Les pauvres, ils sont mis en esclavage par le frère, ils vont venir le trouver, mais quand ils viennent le trouver, ils savent que Néhémie va faire quelque chose. Ils n'iraient pas le trouver si lui-même, il avait mis des gens en servitude, ou s'il se serait comporté de manière totalement totalitaire en tant que gouverneur avec une pointe de fer, faites ce que je dis, pas ce que je fais. Il ne serait jamais venu le trouver, et la muraille ne serait peut-être pas construite. Non, c'est de la manière dont il se comportait, l'accessibilité et le modèle ont donné envie à ce peuple à dire « il ne le sait pas, on va lui dire et il va agir ». Et en agissant, on peut compter sur lui. C'est quelqu'un qui donne envie. C'est quelqu'un qui donne envie. Et l'autorité de ceux qui se comportaient mal, ils l'ont reconnu. On n'a rien à lui dire. Sinon, on aurait pu lui dire « ouais, mais toi, tu fais pareil ». ».« Oui, mais moi, c'est différent ». Et là, on ne peut plus justifier. Ce n'est pas différent. Néhémie n'était pas différent du peuple, il se mettait au même niveau. Et les riches, ils ont donc accepté de changer par crainte de Dieu, mais parce qu'ils avaient vu la vie de Néhémie. Et son désintérêt pour la richesse et pour la gloire. Il est passé des chansons du roi, donc de l'empereur quasiment donc du monde à l'époque, en tout cas très puissant, à un gouverneur d'une petite province, d'une ville en ruine. Et il ne demandait rien, pas d'argent, pendant 12 ans, pas de salaire. Parce qu'il agissait pour Dieu. Les choses auraient pu mal se passer, voilà, si lui-même, voilà, si Néhémie aurait eu une manière de faire, il aurait pu prêter, il aurait pu mettre l'esclavage, il aurait pu mal se comporter, mais non. Il n'a pas tiré la position de gloire. Néhémie s'est montré proche du peuple, uni à lui, renonçant à ses privilèges. Il va utiliser sa fortune personnelle pour mener à bien la vision que Dieu lui a donnée. Il n'a demandé ni au peuple, ni au roi, quoi que ce soit. Et il a même invité ceux qui étaient parfois avec lui. 150 personnes qui travaillaient pour lui, enfin qui étaient avec lui, et parfois les personnes qui y étaient de passage. Et on voit, hein, et on m'apprêtait chaque jour un bœuf, 6 moutons choisis et des oiseaux. Et tous les 10 jours, on préparait en abondance tout le vin nécessaire. Et il n'avait pas de bétail, il n'avait pas de champ, pas de vigne. On voit Néhémie, c'est un homme qui est désintéressé. Il n'a qu'un intérêt, la gloire de Dieu et la vision qu'il porte. Les pauvres étaient certains d'avoir gain de cause en trouvant Néhémie. Et les riches ont été saisis de crainte parce qu'ils ne trouvaient rien à répondre pour l'accuser. On verra pareil de manière parfaite avec Christ. On ne trouve rien pour l'accuser, on va mentir, on va l'amener à la croix, mais que par des mensonges. Parce qu'il était impossible à l'accuser vu qu'il était inaccusable. Et là, c'est l'importance de vivre une cohérence avec nos mots et avec nos actes. Moi, je peux vous dire que je vous aime, mais si je ne le montre pas, vous ne me croirez jamais. Parce que c'est comme quand on le montre, qu'on le vit vraiment. Et on avait vu que Dieu soit notre vie, que Christ soit ma vie, car nous avons tout en Christ. Alors ma vie en moi est cohérente, tout le temps, ou juste les 2 heures, je caricature un peu, où je suis au culte. Ou quand un chrétien me voit, j'ai hop, 2 visages différents. Quand je suis dans le monde ou quand je suis au culte, il y a deux personnalités différentes. Et quand vient l'adversité ou la plainte, ben Christ, soit il peut agir à travers moi pour sa gloire, soit il ne peut pas. Parce qu'on résiste si on n'est pas pleinement convaincu. On résiste. Vous savez, ceux qui ont fait un peu de physique, la résistance, elle est en ohme. Et les ohmes, ils résistent beaucoup, les hommes. Ils résistent beaucoup à la gloire de Dieu. Et un autre prédicateur disait souvent, il est mort maintenant, Ismaël Sadok, il disait que vivre en vie de chrétien, c'est tous les jours de sa vie. Tout le temps. Il fait tout le temps quand tu vas acheter ta baguette, quand tu es avec ta femme, quand tu es au culte. Tu ne peux pas séparer ta vie de chrétien. Néhémie ne séparait pas le leader qu'il était de la vie de serviteur qu'il était. Il était autant leader que serviteur. Parce qu'on est tous serviteurs de Dieu. Donc pour terminer, j'aimerais rappeler que malgré une unité de façade, nous pouvons subir et faire subir aux frères et sœurs notre manque de cohérence dans notre vie chrétienne. Et cela ne sert ni Dieu, ni Christ, ni l'unité. Laissons alors la pleine place à Christ dans nos vies. Il est Seigneur et Sauveur, et par son Esprit, il habite en nous. Laissons-le vivre pour faire de nos vies des exemples, comme Néhémie, des modèles qui donnent envie, passant par un service véritable dans notre vie consacrée à Dieu. que nous soyons des responsables de toutes sortes, que nous soyons des jeunes, des moins jeunes, vivons pour Christ et laissons-nous transformer par la vie de Christ en nous. Que nous puissions vivre ces choses maintenant, pour la gloire de Dieu seul. Et je terminerai par 2 Corinthiens, versets 10 à 12. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. Connaissant donc la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes. Dieu nous connaît, et j'espère que dans vos consciences, vous le connaissez aussi.